Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs à l'écoute de ce message enregistré. Voilà, alors j'ai reçu pas mal de lettres suite à la prédication de dimanche. Je vous remercie pour tous vos encouragements. Bon, il y a quelques personnes qui n'ont pas bien compris ce que j'ai voulu dire. Réécoutez ce que j'ai voulu dire. Et puis, rappelez-vous, c'est une série de prédications sur le salut par la grâce sans les œuvres. Je suis bien obligé d'enseigner ça, puisque maintenant, on en est arrivé à un point où des faux pasteurs enseignent un faux évangile qui dit que nous pouvons aller en enfer si nous ne pratiquons pas des bonnes œuvres. C'est faux. Voilà, c'est une série, et je vais prendre plusieurs versets, mais je ne vais pas prendre tous les versets à la fois, c'est pas possible, ça ferait une prédication de 4-5 heures, parce que je suis très bavard, vous me connaissez. Bon, alors, ce soir, on va étudier, en particulier, dans les Corinthiens, 2 Corinthiens 13, pardon, 2 Corinthiens 13, vous ouvrez votre Bible avec moi si vous pouvez, et au chapitre, versets 5 et 6. 2 Corinthiens 13, 5 et 6. Voilà ce qu'il est dit. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Voilà. Alors, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes vraiment chrétien, si vous êtes vraiment dans la foi. Alors, le contexte, il faut toujours regarder le contexte. Le contexte était que les Corinthiens remettaient en cause le fait que l'apôtre Paul était un vrai apôtre. Et les lettres de Paul aux Corinthiens, c'est pour expliquer à ces braves chrétiens qu'il était véritablement apôtre. Il leur dit, c'est moi qui vous ai prêché l'évangile et vous me remettez en cause. C'est ces deux lettres, c'est ça en gros. Paul leur dit donc, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous l'êtes, c'est parce que moi, je vous ai prêché. Vous comprenez? Examinez-vous. Et si vous croyez sauvé par Jésus plus vos œuvres, alors vous êtes désapprouvé par Dieu, c'est-à-dire déchu de la grâce. Qu'est-ce que c'est que ça, être désapprouvé? Être désapprouvé, c'est ne plus être dans la grâce, mais être dans un mélange de grâce et de loi. Il dit, moi je ne suis pas désapprouvé, je suis toujours dans l'évangile, la bonne nouvelle du salut que nous obtenons par la foi en la grâce de Jésus-Christ qui nous a fait donc cadeau. C'est un cadeau, le salut est un cadeau et nous n'avons rien à ajouter parce que Jésus à la croix a tout accompli pour notre salut. En Corinthiens 15, voilà, l'évangile que je vous ai prêché, et si vous n'avez pas cru ça, ben vous avez cru en vain. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Si vous n'avez pas cru l'évangile que je vous ai prêché, vous avez cru en vain. Alors Paul, comme moi d'ailleurs, se pose cette question, est-ce que ceux à qui j'ai prêché l'évangile ont vraiment cru l'évangile que je leur ai prêché? C'est ça la question. Examinez-vous vous-même. Ça signifie aussi, est-ce que vous êtes dans la foi en Jésus qui vous a parfaitement sauvé à la croix et avec sa résurrection, ou est-ce que vous avez abandonné le salut par la grâce pour vous remettre de nouveau à la croyance du salut par les œuvres comme dans l'ancienne alliance? C'est tout le propos de l'apôtre Paul dans sa lettre. Examinons donc ce que nous croyons. Examine ce que tu crois. Examine pas tes œuvres, examine ta foi. Alors évidemment, on fait les œuvres par la foi, vous me direz. Alors donc, examine ta foi. Où est ta foi? Dans la grâce ou dans les œuvres que tu fais pour ton salut? Si tu as la foi placée dans les œuvres que tu fais pour avoir ou pour garder ton salut, à ce moment-là, tu as cru en vain. On va reprendre Matthieu 25. Vous vous rappelez, on avait regardé Matthieu 25 et on va voir la parabole, la parole de Dieu pour s'examiner personnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si une interprétation d'une parabole va à l'encontre des textes qui disent clairement que le salut est une grâce, un cadeau, c'est que l'interprétation de cette parabole est fausse. Il faut avoir cette humilité. Il nous faut interpréter les paraboles par rapport aux textes qui nous parlent clairement du salut. On ne doit pas interpréter les paraboles d'une manière qui contredit les textes clairs qui affirment que notre salut est une grâce, un cadeau. Les paraboles ont un sens que Dieu révèle à ses enfants et pas aux autres. C'est pourquoi il parle par paraboles. Donc, quand on lit les paraboles de Matthieu 25, on va les reprendre, les paraboles de Matthieu 25. Alors, on va essayer. Parabole de Matthieu 25. J'ai tellement de bouts de papier dans ma Bible que ça me devient difficile de tourner les pages. Matthieu 25, il est là. Quand on étudie, quand on lit les paraboles de Matthieu 25, on doit se souvenir que Matthieu 25 fait suite à Matthieu 24, c'est-à-dire que Jésus a dit des choses qu'on trouve dans Matthieu 24 et que la suite, c'est Matthieu 25, c'est à la suite de ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. C'est par hasard, ça n'est pas placé là n'importe comment. Or, dans Matthieu 24, 9 à 14, Jésus parle de quoi ? Du temps, de notre époque terrible, durant laquelle un quart de la population mondiale va mourir, et puis ensuite, il parle de la grande tribulation qui suivra l'enlèvement de l'épouse jusqu'à la fin des temps. Donc, les paraboles du chapitre 25 font référence au temps des tribulations. Quand un évangéliste ou un pasteur ou n'importe qui prend par exemple la parabole des 10 vierges et la met à la sauce, voilà, est-ce que vous êtes des bons chrétiens ou est-ce que vous êtes des mauvais chrétiens? Est-ce que vous êtes des chrétiens sages ou est-ce que vous êtes des chrétiens fous? Eh bien, il prend ces textes et il les arrange un peu à sa sauce, mais c'est pas dans le contexte, Jésus ne parlait pas de cette manière-là. Ces paraboles ne vous disent pas comment aller au paradis, elles ne vous disent pas comment avoir la vie éternelle. C'est pour cela que je vous dis toujours de regarder le contexte. Parce que si vous ne regardez pas, si vous ne gardez pas en tête ce que je vous dis là, vous allez vous tromper dans votre interprétation de ces paraboles. Vous allez vous tromper parce que vous allez prendre pour vous ce qui ne vous est pas dit. C'est dit, ces paraboles-là, aux gens qui seront restés après l'enlèvement, pendant la grande tribulation. Donc vous allez vous tromper dans l'interprétation de ces paraboles. Et si en plus vous n'avez pas en tête les versets clairs au sujet du salut par la grâce, ben vous aurez deux chances de vous tromper dans le sens de ces paraboles. Mais pour comprendre ça, il faut étudier avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut aussi faire attention à ce qu'ont dit les anciens, parce que les anciens faisaient des études à l'époque. Maintenant, n'importe qui peut se prétendre pasteur ou prophète ou n'importe quoi du jour au lendemain. Hein, tant qu'il a sa sœur, son beau-frère, et puis sa maman et sa femme qui l'écoutent plus ou moins, et puis des gens qui viennent sur YouTube, ça fait pas de vous un pasteur, hein, ça. Et il y en a plein des comme ça. C'est le Saint-Esprit qui éclaire par l'étude sacrée dans la prière. Et c'est pas par une étude intellectuelle. Alors, Matthieu 25, on va regarder 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Alors quoi? Alors, c'est-à-dire tout ce qu'il vient de dire, et puis alors il continue, il dit donc alors, Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, n'est-ce pas, M. Ignatsky? Il a encore eu une interprétation, parce qu'il mélange tout, le pauvre. Il a des très bonnes choses, mais au sujet de la date, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, maintenant, il commence un petit peu à dire, oui, on sait, pourvu que ça soit cette année, voilà, j'ai vu ses derniers commentaires hier. Ah, donc, des vierges folles. Ces vierges folles-là, elles sont perdues. Verset 12, je ne vous connais pas. Elles sont perdues, c'est des êtres perdus. Regardons ça à la lumière de ce que je viens de vous lire. Et non à la sauce évangélique, ou que sais-je. Les vierges folles sont des soi-disant chrétiens qui croient au salut par leurs œuvres. Elles sont vierges, c'est-à-dire elles sont pures. Elles ne font rien de mal, elles font du bien, elles sont sous la loi, elles obéissent à la loi dans tout ce qu'elles peuvent, elles sont sous la loi, elles choisissent d'obéir à la loi, elles croient au Seigneur Jésus, le Seigneur et le Sauveur, mais elles veulent rajouter des œuvres pour rester sauvées ou pour continuer, pour être sauvées, ou que sais-je, enfin elles veulent faire des œuvres pour être sauvées, c'est l'orgueil de leur chair, n'est-ce pas? Ce sont des chrétiens qui croient aux vertus des œuvres pour être sauvées, c'est des vierges folles. La preuve, c'est que les sages les envoient dans leur fausse église, où on vend le salut. Ça vous dit rien, ça? Ce message de la prospérité. Allez en acheter chez ceux qui en vendent, ceux que vous connaissez là-bas. Hein? Qui disent qu'on peut acheter notre salut par en faisant des bonnes œuvres, acheter notre salut en donnant notre dîme, acheter notre salut, voilà, toutes ces bonnes œuvres, n'est-ce pas? Elle croit ça. C'est pourquoi les vierges sages leur disent, allez chez ceux où vous avez l'habitude d'aller pour en acheter. Elles croient cela car elles vont chez ceux qui en vendent. Et puis elles y vont. C'est pas écrit qu'elles disent, non, c'est bon, on sait que c'est faux. Elles y vont. Parce qu'elles ont toujours fonctionné comme ça. Elles ont toujours pensé que le salut, ça pouvait s'acheter. Donc, y a des gens qui le vendent. Comment? Tu vas à la réunion, tu écoutes le bon pasteur te passer un bon savon, et puis ensuite tu sors de là, puis tu fais des bonnes œuvres, tu donnes de l'argent à la quête, et puis tu aides les grands-mamans à traverser la route, et puis tu fais des bonnes œuvres, t'es gentil, tu envoies de l'argent en Afrique pour sauver les petits noirs, et puis voilà, puis tu penses, ça m'accumule un trésor dans le ciel, ça c'est sûr, c'est bien, je suis sauvé avec ça. Elles ont toujours fonctionné comme ça, c'est pourquoi quand les vierges sages aujourd'hui vont aller chez les autres là-bas, ceux qui vendent, eh bien, ils y vont. Le salut ne se mérite pas, ne s'achète pas, il faut faire des... mon Dieu. Le Saint-Esprit, ça n'est pas à vendre. Et pendant ce temps-là, Jésus arrive. Et puis il leur dit, je ne vous connais pas. C'est les mêmes personnes qui disent « Mais pourquoi on ne peut pas entrer dans ton royaume? On a fait des tas d'œuvres en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a fait beaucoup de miracles en ton nom. » Hein? Vous connaissez le passage? Vous connaissez? C'est écrit dans Matthieu 27, 22, 23. C'est des gens qui disent « Mais pourquoi? Comment ça, si tu ne connais pas tout ce qu'on a fait en ton nom? Tout ce qu'on a fait pour toi? Tout ce qu'on a fait? » Et Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire ce qui est injuste. » Quelle iniquité? Quelle injustice commettent-ils? Eh bien, tout ce qu'ils ont fait, même en son nom, c'était pour acheter leur salut, et ça c'est injuste. Ils ont fait toutes ces choses en croyant que cela ajoutait à l'œuvre parfaite de la croix. Et les vierges sages sont les vierges qui dorment, c'est vrai, qui n'ont pas été enlevées, elles dorment, elles ronflent, elles roupillent, voilà. Elles sont restées dans la grande tribulation, et je sais que ça bouleverse la croyance habituelle. Mais avec la croyance habituelle, on dit que les vierges folles sont sauvées si elles marchent fidèlement dans la grande tribulation. Ça, c'est ce qu'on nous raconte, et c'est ce que j'ai dit aussi pendant un certain temps. Or, ce n'est pas ce que Jésus dit. Il dit « Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. » Donc, je résume. Les vierges sages dorment. Elles ne sont pas animées par le Saint-Esprit. Elles dorment. Elles dorment déjà maintenant. C'est déjà maintenant qu'elles dorment. Et elles continueront à dormir pendant la grande tribulation. Ce sera un sommeil très agité, mais elles dormiront quand même. Jésus dit, dans Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et il se répète, il répète ça encore au verset 44. « Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Qui ne pense pas au retour de Jésus? En ce moment, tout le monde y pense. Tout le monde en parle, je veux dire, dans les milieux chrétiens. Mais pas de la bonne manière. Ils ne pensent pas puisqu'ils dorment. Ils cauchemardent. Ils ne pensent pas. Ils rêvent. Qu'ils soient vierges ou pas, qu'ils soient fous ou pas, s'ils dorment, ils ne pensent pas. Moi, quand je dors, je ne pense pas, je rêve. Les sages auront ça pour elles, c'est qu'elles auront cru dans la rédemption sans les œuvres. Mais, comme elles se sont endormies, ben, elles n'ont pas été enlevées. Voilà, elles n'ont pas été enlevées. Elles seront endormies d'un sommeil hypnotique dû à toutes les fables auxquelles elles auront cru avant l'enlèvement. Quelles fables ? Oui, il n'y a pas besoin de vous faire du dessin, vous les connaissez, hein, les fables de un chrétien peut être possédé, s'appeler à Dieu qu'on se roule par terre au culte, des tas de trucs comme ça. Et puis, voilà, la sœur du genou a eu une vision, elle est en enfer, elle a vu Michael Jackson, elle a vu le pape, elle a vu... Mais c'est faux, c'est des fables. Il n'y a personne en enfer pour le moment. Vous avez lu l'Apocalypse ? C'est à la fin que les gens sont jetés en enfer. Pour le moment, il n'y a personne en enfer. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ont des visions, puis les gens disent « Ah, vous vous rendez compte ?» Puis alors, ils écrivent des bouquins, les gens les achètent. Vous voyez, tout est à vendre dans leur truc. Ils se sont laissés berner, endormis, et voilà, par des gens qui parlent des extraterrestres, de la date du retour de Jésus, ou ils se sont endormis de tristesse, certains. Certains se sont endormis de tristesse, comme les disciples à Gethsémané, vous lisez ça dans Luc 22, 45. Parce qu'il y a tellement de scandales dans les églises, tellement d'injustices, tellement de trucs bizarres. Il y a des horreurs qui se produisent partout, et ça jette un voile de tristesse sur les chrétiens, et certaines vierges sages se réfugie dans un sommeil de tristesse, comme les disciples à Gethsémani. Alors de nos jours, avant l'enlèvement, il y a deux sortes de chrétiens. Deux sortes de vierges. Des folles, celles qui font des œuvres pour rester vierges, pures, parfaites, hein, et qui croient que ça contribue à leur salut, mais elles sont déjà inconnues de Dieu. Jésus dit « Je ne vous ai jamais connues ». Ouais, ils peuvent faire des miracles, hein. Il peut faire tout ce qu'il veut, prophétiser en son nom, ils sont folles. Jésus ne les connaît pas. Et puis il y a les vierges sages. Les vierges sages sont des enfants de Dieu, connus de Dieu, parce qu'elles ont mis leur confiance uniquement dans le Seigneur Jésus et le salut gratuit. Ils ont été déclarés saints par le Seigneur. Et parmi ces vierges sages, ben, il y a encore deux sortes de personnes. Celles qui dorment, ou commencent à s'endormir, à cause des choses dont je viens de vous parler, là, tout de suite. Et puis, il y a des vierges sages qui ne dorment pas. et qui seront enlevés, comme l'enseigne Paul dans 1 Thessaloniciens 4:17. Ça va arriver très bientôt, ça. La parabole des vierges sages et des vierges folles parle du temps de la grande tribulation. Jésus le dit. C'est alors que le royaume des cieux sera semblable à des vierges, etc. Ce « alors » de Matthieu 25, 1, c'est un trait d'union entre ce que Jésus vient de dire qui concerne la grande tribulation. Où il est dit, je vous le dis en vérité, mais si un méchant serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à... C'est tout au sujet de la grande tribulation. L'enlèvement aura déjà eu lieu. Relisez bien Matthieu 24 en entier. Et puis lisez Matthieu 25 en entier, sans tenir compte du fait qu'il y a un 24 et un 25. Lisez tout 24-25 et vous allez voir que c'est une suite, ça se suit. Et les paraboles, les trois paraboles qui sont données là, en particulier celle des vierges folles et des vierges sages, ça concerne les gens qui vivront pendant la grande tribulation. Donc ce texte des vierges folles et des vierges sages parle de livrer du bon grain, ou si vous préférez, des brebis et des boucs, des sauvés ou des perdus. Et dans cette parabole, il est question des sauvés qui seront passés par la grande tribulation. Mais ce texte ne dit pas « Attention, préparez-vous, sinon vous serez perdus ». Pas du tout. Les perdus, ce sont les vierges folles. Les chrétiens purs qui croient dans leur mérite pour être sauvés, ils sont perdus. Jésus ne les connaît pas. Ceux qui sont sauvés le sont par la grâce, c'est-à-dire par le choix de Dieu, par son bon vouloir. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie depuis avant la fondation du monde. Et quand sur terre ils entendent la voix de Jésus, quand ils entendent le message du salut par grâce comme un cadeau immérité, ils y croient et ils manifestent sur terre la volonté de Dieu qui est au ciel. J'espère que c'est bien clair. Voilà, alors on a déjà vu ça. La prochaine fois, on ira plus loin et je vous montrerai d'autres choses encore. Ça suffit maintenant, les bricoleurs de Dieu. Il faut aller plus profond dans la parole de Dieu et voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors, j'espère que vous allez bien réécouter ce que j'ai dit, prendre des notes, réfléchir devant Dieu, vous mettre dans la prière, lire Matthieu 24 et 25 d'un trait et vous rendre compte que les paraboles qui sont données là sont données pour les gens qui sont dans la grande tribulation. Voilà. Voilà. Seigneur Jésus, je te demande d'aider mes frères et sœurs à bien saisir ces choses et que cela puisse s'ajouter à ce que j'ai dit précédemment et que cela prépare leur cœur pour écouter ce que je vais dire prochainement. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Au revoir.